Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
C'est la première fois que dans le podcast Sakina Seekers, on sort vraiment du côté apprentissage du Coran et qu'on passe sur un autre thème. Avec Océane, on a eu plusieurs conversations autour d'une même thématique qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui et qui globalement concerne le fait de ne pas s'occuper de ceux qui ne nous concernent pas. Évidemment, la base de cette réflexion, c'est un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam a dit: parmi les qualités d'un bon islam, il y a le fait pour l'homme de ne pas s'occuper de ce qui ne le regarde pas. À l'approche de Ramadan, on questionne d'autant plus nos actions du quotidien. L'état de jeûne fait qu'on cherche d'autant plus à se détourner des choses qui ne sont pas utiles. On s'est dit qu'il était intéressant d'en parler et de pouvoir se questionner sur notre consommation sur les réseaux sociaux aujourd'hui et de pouvoir vraiment développer autour de ce hadith qui a tellement d'enseignements et tellement de pistes de réflexion, puisque ça nous concerne vraiment de très près et on est quotidiennement concerné par cette parole du prophète alayhi salatu wasalam.
Ben, très bonne introduction. J'ai rien à rajouter sur cette introduction.
D'ailleurs, c'est la première introduction où on n'entend pas celle de d'habitude et on n'est pas sur la série Porter sa parole. C'est un thème qui est important pour nous et vraiment qu'on a vraiment matière à travailler pour justement devenir meilleur. Ce qu'on peut tirer déjà de ce hadith, je vais me baser sur un cours que j'avais eu sur l'explication des 40 hadiths de l'imam Nawawi, donc je ne m'improvise pas professeur, je ne fais que transmettre ce qui m'a été appris. On apprend de ce hadith que c'est une manière de concrétiser son islam que de délaisser ce qui ne nous regarde pas. On peut comprendre de ce hadith aussi le fait de ne pas s'intéresser à l'intimité des gens. Et ça rejoint évidemment le fait d'interdire le blâmable, d'ordonner le convenable. Et cette jonction-là, elle est faite parce que même pour blâmer quelqu'un, on va se baser sur l'apparent, mais on va pas aller espionner. Et ça rejoint tellement de thématiques juste avec ce propos-là, parce que combien de personnes ont été questionnées et justement on va fouiller dans l'intimité des gens pour savoir mais est-ce que cette personne, elle pense vraiment comme ça? Mais est-ce que cette personne, elle est comme ça? Mais ça me fait penser, même des fois dans l'associatif, il y a des associations très sérieuses et il y en a, ils vont aller se poser des questions. Oui, quelle est la croyance Enfin, c'est des musulmans à qui ils donnent, évidemment. C'est des gens qui meurent de faim, qui sont musulmans, et les gens vont aller pousser les détails. On voit le côté dérive, parce que justement, il y a non, tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, qui est musulman, et tu ne peux pas aller espionner ou sur-questionner parce que tu comprends que tu vas peut-être passer un step du malsain. Et le deuxième point sur lequel on peut méditer de ce hadith, et je pense qu'on pourra rebondir au fil de l'épisode sur les deux, c'est qu'en s'intéressant au contraire du hadith, on comprend qu'on doit se concentrer sur ceux qui nous regardent, nous. Et plus on délaissera le fait de s'occuper des autres en se concentrant sur ceux qui nous regardent, plus notre islam sera bon, plus on aura un bon islam. Parce qu'on a, en vérité, énormément de travail déjà avec nous-mêmes. Ce que je trouve frappant, en fait, avec ce hadith, c'est que aujourd'hui, on est dans une société qui nous pousse à nous intéresser à la vie des autres, à se sentir concernés, et les personnes les plus populaires en général sur les réseaux sociaux ne sont pas celles qui apportent du contenu, ne sont pas celles qui ont une plus-value, mais ceux qui montrent le plus, ceux qui vont parler le plus de scandales, de ce qu'ils font dans leur quotidien et se montrer sans filtre. Et la question que moi je me pose quand je vois qu'on consomme constamment la vie des autres finalement sur les réseaux sociaux, c'est ce que l'on regardait s'apparentait à nos fréquentations. Et si à force de regarder telle personne, ça ne devenait pas comme une fréquentation indirecte, parce que c'est que dans un sens effectivement, mais c'est comme si on restait avec ces personnes. On dit détester, on dit qu'on va détester la vulgarité, mais si on écoute constamment quelqu'un qui est vulgaire, quel effet ça a sur notre cœur? Et est-ce que ça n'a pas l'effet d'un mauvais compagnon de route? C'est des gens qui ne nous connaissent pas. Et pourtant, nous, on les connaît. On connaît tout d'eux. Il faut le voir d'une manière métaphorique, mais est-ce qu'à force de servir ça à ses yeux, ses oreilles, ça ne s'apparenterait pas à un ami plus que parfois des gens qu'on va voir une fois tous les 2 mois?
Quand tu parles de compagnons, etc., on se rend compte que l'une des techniques un peu aussi des influenceurs, c'est de créer une relation de proximité avec les personnes, avec leur audience, pour leur donner l'impression qu'ils font partie de leur famille aussi. Il y a un truc hyper malsain à ce niveau, parce qu'il n'y a plus de limites. C'est pour ça qu'en effet, on peut se questionner sur est-ce que ce qu'on consomme sur les réseaux, ce n'est pas une forme de fréquentation finalement, et quel impact ça a sur notre cœur, parce qu'au-delà de juste être des images ou des vidéos qu'on consomme, c'est tout un comportement qui va déteindre sur nous, parce qu'aussi, ils nous donnent une place dans leur vie qui est particulière et qui n'est pas... rien que ça, déjà, la place que les influenceurs vont donner à ceux qui les écoutent, elle n'est pas saine. Et la place que, du coup, en retour, les personnes qui écoutent vont donner à ces influenceurs, elle n'est pas saine non plus, tu vois. Enfin, après, on a tous été, je pense, par exemple, nous, ça va peut-être pas être les influenceurs qui vont nous intéresser particulièrement, mais tu vois, par exemple, si t'admires une personne par rapport à, je sais pas, son parcours de vie, etc., parfois, on va connaître beaucoup d'une personne de sa vie. Déjà, rien que ça, ça peut être un peu bizarre parce que c'est des gens parfois qui ne nous connaissent pas, tu vois, ça peut être des célébrités, etc. Mais on va avoir une certaine admiration par rapport à leur parcours. Déjà, ça, des fois, je pense qu'il faut se poser et se dire, OK, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Parce que ça peut apporter hein, aussi de s'intéresser à la vie des gens dans un sens. Genre là, je fais un peu l'avocat du diable parce que la base du podcast, c'est justement s'occuper de ce qui nous regarde. Après, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent nous inspirer dans le bon sens du terme, qui peuvent être des gens qui vont nous tirer vers le haut, plus que même certains proches. Normalement, on se dit, ouais, mais on est censé d'abord s'entourer physiquement. Oui, mais d'accord, mais si tu as des gens autour de toi qui peut-être t'inspirent, mais qui n'ont pas accompli certaines choses, tu peux peut-être t'inspirer par des, je sais pas, même des figures historiques qui sont importantes, etc. On peut s'inspirer, tu vois. Mais c'est à quel moment c'est plus juste s'inspirer, mais on bascule dans la curiosité malsaine, mais c'est vraiment le fait d'aller fouiner, de vouloir connaître dans les moindres détails. Et parfois, enfin souvent même, on se rend compte que, parce qu'il y a des gens qui vont parler de curiosité malsaine, la curiosité malsaine, elle peut prendre plein de formes, elle peut être diverse, et ce qui peut être malsain peut-être pour moi ne le sera peut-être pas pour toi, etc. Mais en tout cas, il y a aussi une forme de curiosité malsaine, même dans justement ce côté aller fouiner, par exemple les réseaux des gens, tu vois, sans même parler que d'influenceurs déjà de base entre nous. Tu vois, ça, je pense, enfin voilà, c'est encore un autre sujet. Mais pour en revenir aux influenceurs, je pense que les abonnements qu'on a sur les réseaux sociaux, ça dit beaucoup de ce qu'on veut créer comme ambiance autour de nous, et ça dit beaucoup de ce à quoi on aspire. Et donc, faut sélectionner vraiment avec attention, parce que ben, influenceur, ça peut paraître bête dit comme ça, mais ça, enfin, le mot influence, il a vraiment son importance. Si tu consommes des heures et des heures du contenu d'une personne, sur le long terme, son contenu va rejaillir sur toi, forcément en fait. Donc ta question, elle est grave pertinente, et je pense que c'est pour ça qu'il faut prendre conscience vraiment de l'importance que ça a, et pas minimiser en se disant ah c'est bon c'est quelques heures. Bah en fait, déjà ces heures là souvent on les octroie même pas pour des choses qui sont censées être vraiment profitables pour nous, mais par contre on va les octroyer à des gens qu'on ne connaît pas, qui ne savent pas qui on est, et qui en plus produisent du contenu qui va être plutôt tu vois, enfin pas critiquable, mais si, un peu quand même, tu vois.
Déjà, je pense que dans la case influence, vu qu'on peut mettre tout le monde et n'importe qui, on peut faire des amalgames, et les gens qui nous sont profitables, en général, je m'avance avec certitude pour dire que ce n'est pas des gens qui partagent beaucoup de leur vie privée. En général, c'est des gens justement qui mettent un cadre sain. Et c'est là qu'on voit aussi la différence entre ceux qui nous sont bénéfiques et qui peuvent l'être plus que notre entourage, parce que c'est des gens qui vont, comme tu l'as dit, nous motiver. Mais c'est rarement des gens qui montrent le fin fond de leur vie privée ou des choses qui nous rendent curieux, même si eux aussi, ils ont affaire à des commentaires ou à des suggestions déplacées ou des comportements qui sont pas appropriés. Je pense à Safia quand elle avait eu l'histoire avec sa copine, justement, Soukaina. Et je me rappelle, elle avait fait toute une story dessus, mais je l'avais trouvée incroyable. Sa story, c'était un très bon rappel, parce qu'il y en a plein qui lui demandaient « mais est-ce que vous êtes embrouillée ?» et tout. Et du coup, elle avait joué un peu dessus pour que les gens regardent sa story et qu'elle finisse par dire justement, tu sais, les gens n'ont pas à s'occuper de ceux qui ne les regardent pas. Elle avait cité plusieurs hadiths et c'était très, très, très pédagogique pour montrer justement, genre moi, je vous autorise à voir telle ou telle chose. Elle ne montre pas plus que ce qu'il est nécessaire de montrer. Et voilà, les gens s'autorisent parfois à ouvrir une autre fenêtre, une autre porte. Est-ce que tu parles encore à un tel? Pourquoi on ne voit plus un tel? Et en fait, c'est des questions, tu te dis, mais pourquoi on en arrive à se poser ces questions en vrai? Genre, ça me
mais
concerne
surtout
pas.
Que quand tu consommes du contenu, tu finis par croire que tu connais la personne des fois. Et je pense qu'il y a des gens qui ne font plus la distinction entre « mais cette personne, j'ai beau voir ses stories tous les jours, ce n'est pas mon ami, ce n'est pas mon proche, ce n'est pas quelqu'un de proche ». Déjà, même avec des proches, des fois, on ne se rend pas compte que la personne en face, elle peut se dire « bah non, ça, j'aime pas ce genre de questions, etc. » Donc, en plus, quand c'est quelqu'un que tu connais pas, il faut se dire « mais savoir l'état de l'amitié ou pas, à quel moment je peux déjà m'attendre à avoir une réponse ». Enfin, en fait, c'est pas parce que j'ai un peu l'impression qu'il y a une sorte de croyance inconsciente de, ben, parce qu'en fait, les gens vont créer du contenu, ils sont dans l'obligation de nous rendre des comptes, tu vois. Et même nous, hein, peut-être que des fois, dans notre vie, on s'est déjà dit ça, tu vois. Genre, ah, j'aime trop tel créateur de contenu ou tel, je sais pas moi, tel acteur ou tu sais, enfin bref, peu importe, une personne qu'on trouve inspirante était en mode, ben ouais, mais j'aimerais bien savoir ça. Et pourquoi ça, il nous le montre pas et tout. Mais parce qu'en fait, c'est sa vie privée. Et genre, on n'a plus de notion de vie privée avec les réseaux sociaux. Tu vois, tout est devenu public. Enfin, il y a tellement plus de limites. Ça a tellement été repoussé qu'aujourd'hui, limite... Bah justement, si tu mets une limite, désolée, j'ai utilisé le mot limite 70 fois en l'espace d'une minute, mais si jamais tu mets une limite claire, parfois ça va être hyper mal reçu parce que, bah, en fait, pourquoi tu fais ça, tu vois ? Genre, on va questionner la vie privée et on va plus questionner le fait que tout devienne public. Ça s'est inversé, en fait.
Ouais, c'est ça. Limite, pourquoi il cache ? Ouais, pourquoi il y a des limites ? Je comprends pas. Pourquoi on voit pas ça ?
Ouais, c'est considéré comme si on cachait, tu vois, le mot que tu as utilisé, il est grave juste. C'est comme si on cachait, alors qu'en fait, depuis toujours, il y a toujours eu une vie privée, une vie publique. Il y a, enfin, même au niveau de la loi, il y a la protection de la vie privée de base. Enfin, tu vois, c'est quand même des notions qui existent depuis toujours, enfin, dans un sens. Et ce qu'on fait chez nous, par exemple, c'est pas pareil que quand on est dans l'espace public. On va pas se comporter de la même façon, même religieusement. Nous, c'est un exemple très simple, mais le hijab, tu vois, tu es dans ta sphère privée, tu te montres pas de la même façon que quand tu es dans la sphère publique. Donc, il y a vraiment une distinction, je pense, claire à faire, tu vois, aujourd'hui, dans nos sociétés. Mais justement, enfin, le problème, c'est surtout dans notre communauté. Quand tu vas dire à quelqu'un, mais pourquoi tu consommes le contenu de cette personne, enfin... T'as l'impression que c'est même pas normal, limite, parfois, de poser la question, parce que ben, tout le monde le fait, et genre, c'est normal, tu vois, genre, je vois pas le mal là-dedans. Il y a plein de gens aussi qui ne voient pas le mal aussi dans le fait de consommer ce genre de contenu,
finalement. Et je pense que c'est parce qu'on est surhabitué aussi à ça, et il faudrait se poser la question aussi de d'où ça vient et comment on en est arrivé là, puisque finalement, c'est un phénomène récent. Les influenceurs, ils ont appris à travailler, à se faire de l'argent de cette manière depuis peu, finalement. Avant, ça n'existait pas, on n'avait pas du tout cette notion. Et justement, en fait, avant, tu fermais la porte de chez toi.
Bah, c'est ça, et surtout, quand on regarde justement, enfin, historiquement entre guillemets, mais je veux dire, quand tu regardes les personnes qui étaient célèbres dans le passé, célébrité égale, encore une fois, chanteur, acteur, etc. Bon, c'est plus le domaine artistique, dans un sens. Après, il y a aussi, on peut dire, homme politique, etc. Mais bref, on va rester dans le show business un peu. Bah, ce qui est fou, c'est que quand tu analyses les gens à l'époque... Et même encore aujourd'hui, ils faisaient en sorte de protéger leur vie privée des regards, justement, des personnes qui avaient une curiosité malsaine. Et ils se battaient même contre, genre, des photographes qui volaient les photos. Enfin, je veux dire, je sais pas, il me semble que c'est Brigitte Bardot, tu vois, ou genre, carrément, quand elle a accouché de son enfant, il y a des journalistes, des photographes qui se sont déguisés en infirmiers et infirmières pour pouvoir aller faire des photos du bébé. Déjà, la curiosité malsaine de l'être humain, c'est un truc de ouf jusqu'où ça peut aller, tu vois. Surtout quand c'est monétisable derrière, parce qu'on veut forcément tirer quelque chose de ça. Mais c'est pour dire que les célébrités avaient cette tendance, je pense, à être exposées. Et donc, les personnes exposées, justement, se disaient bah, « je suis déjà assez exposée, donc je veux protéger ma vie privée, ça m'appartient. » Et en fait, ça regarde personne. Et donc, d'où après la mise en place de tous les magazines qui se faisaient de l'argent sur vraiment là, c'est étaler la vie des gens sans leur consentement, clairement, tu vois. Et qui achète ça ? Qui a acheté ça depuis toujours ? Tu vois, si tu regardes, il y en avait dans les salles d'attente chez les médecins. Et généralement, c'était un public de femmes qui achetait ça. C'est un public de femmes qui allait consommer ce genre de magazine, etc. Et avant, c'était même considéré un peu comme normal, tu vois. C'est au bout d'un moment, moi, quand je questionne ma mère là-dessus, des fois, elle me dit, mais tu sais, on se rendait même pas compte. Je te jure, on ne se rendait même pas compte de ce que ça supposait derrière. En fait, on lisait ça. C'était même pas forcément parce que nous, on était motivés par ça. C'est juste qu'on questionnait pas forcément le bien fondé de ça. Alors qu'aujourd'hui, on s'en fiche en plus. Tu te dis, pourquoi tu vas t'intéresser à des choses ? Les personnes en question, elles sont même pas d'accord pour que ce soit connu de tous et tout. Enfin, il y a vraiment un truc malsain. Et bref, donc à la base, on peut considérer que les personnes faisaient en sorte justement de, comment dire, de protéger leur vie privée. Et les influenceurs, c'est un peu les gens qui, je pense, avaient ce besoin de reconnaissance, de célébrité, de visibilité et de tout ce qui va avec, c'est-à-dire le besoin d'être reconnu. Pourquoi ? Souvent pour pas grand-chose, ou pas en tout cas comment dire, c'était pas spécialement pour un talent particulier dans le domaine artistique ou quoi, c'était vraiment juste être connu pour soi. Et enfin, quand tu réfléchis, ils sont connus justement beaucoup parce qu'ils ont vendu leur vie privée. En fait, ce qui a fait la différence avec d'autres personnes, c'est ceux qui avaient eu peut-être une petite visibilité par, je sais pas, des téléréalités, etc. Voilà. et qui ont utilisé ça, ensuite qui l'ont récupéré derrière pour montrer leur vie du quotidien. Et ils ont instauré ce truc de « je partage avec vous tout mon quotidien, que ce soit via des vidéos YouTube, que ce soit via des publications sur Instagram ». Mais si tu regardes les artistes avant, justement, genre les chanteurs et tout, ils n'avaient pas Instagram. Je veux dire, ce n'est pas eux qui ont impulsé ça. Hein. Ils se sont mis dessus petit à petit parce que tout le monde est sur Insta. Mais en réalité, c'est pas eux qui ont fait en sorte que la vie privée devienne autant publique et qu'il n'y ait plus de barrières. C'est vraiment les influenceurs qui ont... Enfin, moi, à mon sens, et dans le peu de choses que j'ai pu... les recherches que j'ai pu faire, etc. Il y a vraiment ce truc de... en fait, on a envie d'exister et on existe en vendant notre vie privée à n'importe quel prix. Et en fait, le fait de vendre sa vie privée, c'est un peu comme conséquence de « je dois tout à ceux qui me regardent et je peux plus rien refuser aux gens ». Et donc, je pense que là, on rentre dans un truc hyper malsain. Et quand tu regardes un peu les études sur la santé mentale, etc., tu te rends compte que justement, les personnes qui s'exposent le plus souvent, c'est les personnes qui sont extrêmement malheureuses derrière parce qu'elles ont l'impression qu'elles n'ont plus de contrôle sur leur vie. Parce que quand tu n'as plus de distinction entre ta vie privée et ta vie publique, que tout le monde peut décider décide de ce que tu dois montrer, de ce que tu ne dois pas montrer. J'avais lu dans des articles des filles qui, on les avait forcées limite à, je ne sais pas si c'était le manager, je ne sais pas qui, ou je ne sais plus qui s'était rendu compte, mais en gros, on les avait forcées à dévoiler une grossesse, par exemple, alors qu'elles savaient que c'était des grossesses à risque et que potentiellement, ça n'allait pas se concrétiser. Bah, elles étaient obligées, elles étaient rentrées dans un engrenage. Et en fait, là, tu te dis, mais là, on est entré dans un truc hyper malsain. Comment tu veux arrêter ça, tu vois? Et en fait, plus il y aura de la demande, plus il y aura de l'offre. C'est aussi ça. Parce que souvent, on va dire, ouais, mais ils n'ont qu'à pas faire ça. En fait, si les gens arrêtaient de consommer ce genre de contenu, il y a combien de personnes qui n'existeraient plus finalement? Qui existent juste parce qu'il y a des consommateurs? C'est comme dans...
Et d'ailleurs, le plus malsain, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont très connus et pourtant t'entends tout le monde dire « Ah non, mais je peux pas la supporter. » Bah du coup, qui c'est qui la regarde et qui la finance? Parce que si personne la supporte, mais qu'elle a 1 million de followers, d'où vient le million? En général, quand ils ont un avis, ça veut dire qu'ils ont consommé, qu'ils ont déjà finalement regardé. Et au final, c'est par ces vues-là que la personne, elle est payée, qu'elle a de l'argent, et ça crée tout un engrenage. Et en fait, c'est ça, je pense que, comme on le disait donc avant, les célébrités connaissaient déjà ce fléau de les gens veulent fouiller dans la vie des gens. Et sans parler de célébrités, on est comme ça même entre nous, tu l'avais dit tout à l'heure. Mais quand ils ont compris qu'on pouvait capitaliser dessus, c'est la grande période du coup où il y a eu le switch, où la télé-réalité a commencé à prendre un autre tournant. Et les gens ont aimé ce côté télé-réalité, de voir des gens enfermés dans une villa, des vrais gens, avec des vrais embrouilles, des vraies histoires d'amour, du vrai drama. Et c'est là qu'on voit le problème que ça engendre pour nous, éthiquement, de s'affilier à ce genre de contenu ou d'aimer ce genre de contenu, d'y trouver un plaisir.
Ouais, et puis surtout, à l'époque, c'était du vrai drama. Aujourd'hui, c'est tout scénarisé et tu vois, c'est encore différent. Parce que justement, c'est là où tu te dis jusqu'où ils vont pousser les limites, tu vois. T'as l'impression que les gens se perdent eux-mêmes là-dedans aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'en tant que consommateur, tu te perds parce que tu finis par te dire « Mais en fait, je suis en train de regarder des clashs de gens que je connais même pas. » Et ça va rien m'apporter. Après, voilà, je pense qu'on évolue. La télé-réalité de quand on était plus jeune, nous, je pense, quand on avait genre 16, 17, 18, c'est pas la même qu'aujourd'hui. Je sais même pas là aujourd'hui ce qui cartonne, ce qui cartonne pas. Donc, j'ai pas d'éléments par rapport à ça. Mais, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais c'est bon, si on vous écoute, franchement, on passe la journée à étudier les sciences religieuses. Enfin, en gros, c'est du divertissement, quoi. Faut pouvoir poser son cerveau. Mais en fait, tu peux te divertir peut-être autrement qu'avec ce genre de contenu ou vraiment.
Exactement.
Enfin, tu vois, il y a d'autres formes de divertissement. On n'est pas là, moi, la première. Hein. Moi qui parle de cinéma sur mon compte tout le temps, je ne vais pas dire aux gens « Ah non, mais surtout pas regarder de la fiction ou quoi. » Non, mais c'est que, bon, déjà, ça dépend à quelle fréquence. Ça dépend si on a fait nos obligations. Enfin, il y a peut-être une hiérarchie aussi dans ce qu'on peut s'accorder par rapport à... Et ça, je me fais le rappel à moi-même en première, bien évidemment. Mais... c'est des choses dont on discute régulièrement, toi et moi. C'est est-ce que le temps que j'alloue à ce genre de contenu, est-ce que j'alloue le quart, en fait? Est-ce que j'alloue le quart à des choses qui sont vraiment profitables, dont mon âme, elle a besoin? Est-ce que j'alloue le quart à mes obligations? Et en fait, c'est ça. Et enfin, après, il faudra qu'on parle aussi de l'audience qui consomme ce type de contenu. Mais il y a des moments où tu écoutes les gens, ils te disent, ouais, mais. Enfin, ils vont te dire d'un côté, j'ai pas le temps sur certaines choses, mais en même temps, on peut passer des heures à scroller sur des stories de machins qui s'embrouillaient avec une telle et des dramas de fou. Et à la fin, t'as tiré quoi de cette histoire, en fait, concrètement? Rien du tout, tu vois.
Mais en fait, le fait même que ça nourrisse notre âme d'une manière ou d'une autre, ça veut dire quelque chose. Si ça nous prend au point de passer beaucoup de temps dessus et qu'on le remarque même pas, ça veut dire quelque chose de nous. qu'on le veuille ou pas. Et il faudrait se demander aussi pourquoi on a cette curiosité, pourquoi on a ce besoin. Voilà, encore une fois, se dire pourquoi est-ce que ça, c'est un truc qui me procure du plaisir ? Genre, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je suis assujettie à ce besoin ? Parce qu'en vérité, on devient esclave de cette consommation-là. On devient dépendant de ça, enfin, d'une manière un peu plus subtile que la dépendance à proprement parler. Mais en gros, ça va être un moteur et il y a juste à avoir nos temps d'écran. On peut mentir à nos proches ou se mentir à nous-mêmes en se disant « Non, mais c'est bon, je ne regarde pas beaucoup. » Mais en vrai, notre temps d'écran, il parle pour nous. C'est comme le « Non, mais on peut bien se divertir, mais que tu fais que ça de ta journée pratiquement. » Genre, tu passes un quart d'heure avec ton courant et tu passes 3 heures sur les réseaux. Tu sais très bien qu'il y a un décalage. Et justement, on sait que pendant Ramadan, on essaie encore plus de faire le tri, de se focaliser sur l'essentiel parce qu'on est en état de jeûne et qu'on doit à tout prix éviter encore plus d'aller vers la futilité. Mais de base, ça fait partie du croyant, de se détourner des futilités. La sourate 23, Al-Mu'minun, Allah a dit, je le dis en français dans la traduction rapprochée, « Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités. » On a « qui se détournent des futilités », qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas nous qui allons interpréter le verset, mais il faut regarder ce que disent les tafsirs et se détourner des futilités. Ça comprend le fait de se détourner des conversations qui ne sont pas utiles, des choses qui sont vaines pour nous.
Ça me fait grave réfléchir aussi quand tu dis ça, parce que il y a tellement de choses qui sont vaines pour nous et auxquelles on donne du crédit sans s'en rendre compte. Enfin, là, que en fait, il faut vraiment se questionner sur la consommation qu'on a. Même, enfin, je veux dire, le moindre abonnement qu'on a, le moindre. Faut se dire en quoi est-ce que ce que je suis en train de consommer, ça va m'être profitable d'une façon ou d'une autre. Évidemment, tous les comptes ne sont pas profitables de la même façon et on n'est pas en train de dire que tout le monde doit consommer que du contenu religieux, etc. Encore une fois, mais je pense qu'il faut vraiment se recentrer et comme tu dis, il faut se questionner aussi parce que en fait, on a tous nos vices. On a tous nos faiblesses, des choses sur lesquelles on doit particulièrement travailler, qui méritent notre attention justement particulière et au niveau de notre âme, donc dans la purification qu'on peut mettre en place. Au niveau de notre cœur, etc. Et le Ramadan, c'est vraiment un moment important pour entamer ce travail-là. Et donc, s'il y a des personnes qui se disent « en fait, moi, je sais que je fais partie de ces gens qui vont beaucoup chercher les infos sur, je sais pas, sur les réseaux, beaucoup fouiner, dès qu'il y a le moindre drama, on va tout de suite essayer d'aller savoir mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. » Là, c'est le moment de se dire, en fait, je veux dire, tout n'est pas perdu. Voilà, c'est juste qu'il faut être en capacité déjà de le conscientiser, d'où le podcast, enfin, d'où l'épisode que tu as voulu mettre en place. Et je pense que c'est important de se questionner vraiment sincèrement sur, mais ouais, qu'est-ce que j'en retire ? Et comme je t'ai dit, en fait, je pense que l'audience principale, en fait, de ces contenus-là, les contenus qui avaient des millions d'abonnés, t'imagines, on parle de millions, c'est-à-dire que tu te dis quand même, il y a des chaînes YouTube ou des comptes Instagram, ou, bref, qui sont mais des pépites, qui ont qui ont très peu d'abonnés, tu vois, ou 5000 personnes, bref, même moins, tu vois, et tu te dis, il y a des personnes comme ça qui, leur contenu consiste à montrer leur vie et à pleurer devant leur téléphone. Ouais. Et tu te dis, et ça mobilise 1 million. Mais attends, il faut quand même se poser la question, ça veut dire quoi de notre société et de notre communauté ? Si on est beaucoup plus enclin à tendre vers ce type de contenu-là, il y a un gros problème. Genre vraiment, moi quand j'y pense, je me dis, mais c'est qu'on est perdu. Vraiment, il y a une partie de nous, là, on se perd, quoi. Parce que c'est pas possible de se dire que ce contenu-là, parmi tous les contenus intéressants et pertinents qui sont mis en place sur les réseaux sociaux, on choisit d'aller vers ça. Donc là, il faut vraiment faire une introspection profonde et se dire, ouais, il y a un problème dans mes priorités, dans mon rapport à, je sais pas, à moi-même déjà, tu vois.
Et c'est important en plus de dire, comme tu as dit, de parler de communauté parce qu'on est absolument concernés. Genre, c'est pas une affaire qui concerne que ceux qui n'auraient pas l'éthique de l'islam. Parce qu'au contraire, il y a beaucoup de personnes mises en avant qui sont justement, qui font partie de la communauté maghrébine ou de la communauté musulmane. On a l'éthique de l'islam et pour autant, on est les premiers concernés par les personnes qui sont aujourd'hui mises en avant pour le futile. Alors même que normalement, dans nos attributs de croyants, il devrait y avoir le fait de se détourner de ce qui ne profite pas. Cette caractéristique noble du croyant de ne pas aller vers la futilité, ça ne nous concerne que très peu en vérité dans notre quotidien.
En fait, moi, ce que je me demande, c'est, enfin, à chaque fois, tu essayes de te dire, ok, du coup, qu'est-ce que les gens sont venus chercher dans ce contenu-là ? Parce que s'ils le consomment, c'est qu'il y a une raison. Et du coup, j'ai essayé de réfléchir un peu. Et donc c'est principalement des femmes. je sais pas trop, je pense vingtaine, trentaine, même quarantaine parfois, grosso modo. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui, en fait, qui consomment ce type de contenu par sentiment d'identification. En même temps, tu peux pas t'identifier parce que souvent, ces personnes-là mènent une vie que la plupart des gens ne mènent pas au niveau de leur quotidien. Enfin, si, au début, ils mènent le même genre de vie, puis après, avec les abonnés qui augmentent et les revenus qui sont plus les mêmes, forcément, ils se permettent beaucoup plus des petits voyages par-ci, enfin, des gros voyages, en fait. Et donc là, il y a un décalage, après, je pense, avec du peu que j'ai pu voir. Hein. Il y a un décalage, à mon avis, au bout d'un moment, qui se crée. Ouais. Mais il n'y a pas que des petites jeunes de 20 ans, tu vois, c'est ça aussi qui pose question. Il y a beaucoup, beaucoup des mères de famille. Et donc, ça pose question, parce que forcément... quand t'es mère de famille, par exemple, et que tes enfants voient que tu consommes ce type de contenu, ça renvoie tellement de choses. Donc, pour revenir à ce que je disais, il y a un peu un sentiment, j'ai l'impression, de solitude, où les personnes se sont peut-être tellement plus connectées à d'autres choses. Elles sont peut-être déconnectées de je sais pas, au niveau de leur foyer, des personnes qui leur sont proches. Elles sont peut-être déconnectées parfois de leur spiritualité aussi, tu vois, à certains moments. Et du coup, la facilité, c'est d'aller chercher... à se connecter à des contenus qui font pas mal à la tête, entre guillemets, même si ben, ça peut quand même faire beaucoup mal à la tête, ce type de contenu, j'ai l'impression. Mais bon, un contenu, je sais pas, un peu pré-mâché comme ça, ou enfin voilà, c'est du truc de bas étage en plus, qui va vraiment pas t'élever d'une quelconque façon, quoi. Tu regardes juste la vie de quelqu'un d'autre. Je sais pas, il y a peut-être une façon de vivre par procuration ou de se rassurer sur sa propre vie en se disant « Ah bah ouais, bah, elle vit la même chose que moi ». Je sais que beaucoup de personnes ont dit ça par rapport aux personnes connues qu'il y a pu y avoir sur les réseaux ces derniers mois et ces dernières années. Un peu le côté, ben ouais, mais bon, on ment, on peut s'identifier à elle. Peut-être que voilà, il y a des femmes qui n'arrivent pas à se sentir proches de femmes de leur communauté qui peut-être essayent de tendre vers l'élévation et tout. Mais c'est, tu vois, au final, ça veut dire quoi d'elle? Ça touche à la confiance en soi, tu vois. Peut-être que de base, celles qui vont consommer ce type de contenu, c'est peut-être des filles qui n'ont pas spécialement confiance en elles, qui se sentent même pas légitimes peut-être de tendre vers mieux. Et qui vont juste se contenter d'un truc, mais genre de bas étage, de première, tu vois.
Oui, il y a plein de choses, en fait, après, qui peuvent expliquer le pourquoi du comment on va consommer ce genre de contenu. Il y a des raisons diverses et variées, selon la personne et son vécu, etc. Il ne faut pas le regarder d'un œil moralisateur, et il faut se poser en même temps les questions. Est-ce que ça me guérit vraiment ? Est-ce que ça m'apporte ? Est-ce que je n'ai pas la possibilité de moi-même gérer certaines choses autrement ? Et en même temps, pour le côté de je m'identifie à la personne, bah, est-ce que même ça, je le mesure ? Genre, je m'identifie à quelqu'un, mais pour autant, est-ce que j'ai besoin de trop rentrer dans sa vie privée ? Et quand la personne, elle laisse trop la porte ouverte, bah, faut être capable aussi derrière de nous gérer intrusion, on va dire, entre guillemets. Le fait que cette personne, elle nous laisse un peu trop d'espace, bah, faut être capable de le gérer aussi pour pas justement trop peut-être s'habituer à avoir ce type de comportement ou de réflexion.
Ouais, puis je pense qu'il faut surtout être capable de se dire pourquoi je peux pas m'identifier à autre chose, quoi, surtout. Pourquoi j'essayerais pas, tu vois, d'arrêter de m'identifier à ce type de contenu-là et d'arrêter de consommer ça, parce que finalement, j'ai pleinement conscience du fait que ça m'amène nulle part. C'est un effort, et puis parce que ça, c'est NFS, tu vois. L'âme, au bout d'un moment, il y a des moments où elle a tellement l'habitude d'être dans sa zone de confort qui est finalement très inconfortable, au final, d'un point de vue spirituel, mais tu sens que t'es là-dedans, tu te confortes là-dedans, et c'est dur de sortir, de se dire « Ah bah, en fait... » Je vais arrêter ces choses-là parce qu'elles ne sont pas, elles me sont pas profitables. Et au-delà même de c'est pas profitable, quand tu compares la balance, le côté positif et négatif, tu te rends bien compte que ça penche vraiment d'un côté. Et notamment, moi, je pense souvent à ces personnes qui montrent leurs bienfaits, tu vois, sur les réseaux. Déjà, elles incitent, si tu regardes, elles ont incité tout le monde à faire de même. C'est-à-dire que à la base, c'était les influenceurs qui... de base, c'était personne. Personne. Après, c'est devenu les influenceurs. Et maintenant, tout le monde est en mode j'étale un peu mes bienfaits, tu vois. Et j'allais dire, par contre, on va pas montrer les moments difficiles, etc. Si, parce que justement, les influenceurs, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu en disant « Mais moi, je vous montre tout, même les choses les plus difficiles, mais parce que c'est ce qui fait le plus regarder, c'est ce qui fait le plus buzzer au final. » Donc évidemment qu'ils vont pas s'en priver. Mais du coup, j'ai l'impression que ça a quand même eu une influence dans le sens où tout le monde a envie de montrer les choses positives, tu vois. Peut-être que c'est une façon, on en avait déjà parlé de ça un peu en off, de se valoriser ou de se rassurer, tu vois, en mode « Ah ouais ». Parce qu'il y en a combien aussi des influenceurs qui montrent une image, mais qui est totalement, la plupart, qui est totalement fausse, tu vois. Et donc, le décalage entre ce que les gens s'imaginent et ce qui est la réalité, du coup, ça va créer des complexes chez les gens par rapport à leur vie, Alors qu'en fait, si tu t'éloignais de ça, tu n'aurais peut-être même pas de complexe. Et en plus, ça se trouve, ça peut créer de la jalousie petit à petit. Tu peux même finir par être dans la jalousie vis-à-vis de ces personnes. Et ces personnes-là qui montrent leurs bienfaits, elles se doutent qu'elles risquent de créer de la jalousie. Tu vois, c'est un truc hyper malsain où tu te dis, mais en fait, si chacun fermait un peu la porte, chacun de son côté, on se porterait tous mieux finalement dans un sens. Dans tous les cas, que ce soit des bienfaits ou des moments difficiles, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en parler. Mais ça veut dire que je pense qu'il y a une modération. Et donc, les influenceurs n'ayant pas cette modération, nous, on est censé l'avoir et on ne l'a pas. Et donc, en fait, ça crée un chaos total où finalement, c'est que la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit. Et je pense que c'est... Il y a tellement de côtés négatifs et nocifs, et on le sait, mais c'est compliqué d'en sortir, je pense, parfois, parce qu'on est noyé là-dedans, tu vois, aussi. C'est devenu la norme, en fait. C'est devenu la norme, au final.
Apprendre à ne pas se laisser aller par cette norme. Surtout revenir au fait de questionner ses actes, ça peut nous aider à sortir de ces automatismes. De se dire, mais pourquoi je suis en train de faire ça? Qu'est-ce que ça va m'apporter de savoir pourquoi une telle, elle ne parle plus avec une telle? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être dans cette position? Et est-ce que ça va m'apporter en tant que croyant, croyante en l'occurrence? Et d'apprendre à déconstruire du coup des petites choses qu'on fait parfois par réflexe, mais qui n'ont rien de ce qui devrait s'apparenter à en être finalement. L'autre chose aussi, peut-être qu'on pourrait faire, donc c'est déjà se questionner sur l'acte quand on le commet, enfin, quoi qu'on fasse sur le coup, se questionner sur le pourquoi du comment. Et aussi, on peut très bien réduire petit à petit, parce que peut-être qu'il y en a certaines qui vont se dire, mais moi, j'aime bien une telle, j'aime bien une telle. Ouais, bah choisis alors. Essaye de diminuer d'abord, voir peut-être quelle personne t'apporte le plus ou celle qui va te nuire finalement le plus, sans s'en rendre compte.
Je pense que cette curiosité malsaine, tu la vois aussi quand il y a des personnes qui, par exemple, qui disent ne plus consommer un contenu, mais qui vont continuer d'aller commenter toutes les photos d'une personne qu'elles ne connaissent pas vraiment au final, tu vois. Mais elles vont continuer d'aller, ça peut s'apparenter limite à du harcèlement. C'est pour ça qu'on dit que ce côté-là de suivre quelqu'un et d'avoir l'impression d'être son ami et d'être quelqu'un d'intime, etc., mais c'est hyper malsain parce que ça donne vraiment aux gens un sentiment de, je sais pas, de toute puissance, de je peux me permettre de faire des choses que je ne ferais jamais aussi dans la vie réelle, tu vois. Et aller continuer de checker ce que la personne elle fait alors que tu n'es plus en accord avec elle. Déjà, pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas juste « je me désabonne, ciao ». On est tous habitués à être commentateurs, à être spectateurs de tout, on se donne des droits qu'on ne se donnerait pas dans la vie réelle. Et tout ça nourrit ce truc de... en plus du fait que je m'intéresse à quelque chose qui n'est pas censé me concerner, je vais me permettre de commenter, je vais me permettre de donner mon avis.
En fait, limite, c'est notre regard sur la loupe Instagram qui pose problème ou alors le fait qu'on aille chercher des noms, donc on aille dans la loupe, mais vraiment dans la barre de recherche et qu'on aille chercher. Mais à la base, si on s'occupe de nos affaires, est-ce qu'on aurait vu quelque chose qui nous déplaît?
Non, mais c'est ça, c'est que des fois, on se dit « Ah bah moi, ça va, alhamdoulilah, j'ai l'impression de ne pas être quelqu'un qui suis particulièrement curieux, etc. » Mais au final, quand on regarde comment on est arrivé à tel endroit sur Instagram ou comment... en fait, c'est des choses qu'on n'a même pas... Parfois, on n'en a même pas conscience, tu vois. Et je pense que c'est juste vraiment ce côté se rappeler qu'on doit se détourner et des futilités et arrêter de donner notre avis sur tout le monde. Enfin, vraiment, c'est un fléau, tu vois. Quand tu es sur les réseaux et que tu vas t'abonner qu'à des influenceuses qui sont dans les dramas du matin au soir et tout, mais en fait, c'est des dramas, c'est du négatif, c'est de la haine. Tous ces sentiments, tu vois, là, c'est... Normalement, notre cœur, il devrait rejeter automatiquement. Tu devrais te dire, non, mais ça me met mal à l'aise. Et même si c'est un travail à faire et que certaines vont dire, pour moi, c'est plus compliqué. Mais déjà, se dire, je comprends que ce n'est pas normal, que j'aime ces ambiances. J'aime ces ambiances-là, tu vois, et j'aime voir des gens s'en prendre plein la tronche, par exemple. Il y a vraiment des gens où on le sent, ils se délectent de ça. Tu vois, à un moment donné, là, il faut vraiment se questionner, tu vois.
Et en plus, même sur le fait d'avoir un avis sur tout, mais à quel moment est-ce qu'on s'est senti légitime d'avoir un avis sur tout et d'avoir toujours quelque chose à dire? Quand est-ce qu'on a compris ou assimilé le fait qu'on ait forcément besoin d'avoir un avis et d'avoir à le... verbaliser ouvertement dans des lieux qui ne sont pas appropriés. Et ça aussi, c'est la cause de plein de polémiques ou de... Justement, ça alimente le côté « je me mêle des dramas qui ne me concernent pas », etc., etc. Ça nourrit des cercles vicieux.
Non, totalement. Puis, si je pouvais rajouter un truc, en fait, il y a trop de notions qui sont liées et tout. On peut en parler pendant des heures et c'est pas le but. Mais tu vois, même on nous demande de faire beaucoup attention à notre ego. En islam et on doit perpétuellement se remettre en question sur nos intentions, etc. Et sans parler de ceux qui commentent et qui consomment uniquement ce contenu-là, mais il y a aussi le fait de faire attention, nous, à ne pas tomber là-dedans. Parce que les gens qui font de leur vie privée, finalement, un commerce, dans un sens, et qui utilisent leur vie privée pour avoir de l'argent, avoir de l'audience, etc., tu peux pas travailler correctement, je pense, ton ego quand t'es là-dedans. Et puis, de façon, de base, c'est même pas quelque chose qui, je pense, qui est naturel pour un être humain. La surexposition, tout ça, c'est toutes des choses, en fait, qui sont pas naturelles, qui sont pas des choses dans lesquelles on est censé baigner.
Quand tu vois que t'as des milliers de vues, mais dans quel état... Enfin, ton ego, il est beaucoup mis à l'épreuve. On peut pas savoir l'état, mais en tout cas, on peut se dire c'est quand même rude pour l'ego, après, de tenir derrière. Pour résumer brièvement, l'intérêt, c'est de se poser ces questions-là sur le long terme. C'est pas que parce qu'on approche du mois de Ramadan, mais c'est aussi pour changer notre approche sur les réseaux sociaux et ce qu'on va consommer. Parce que ce qu'on consomme, c'est ce que l'on est, finalement. Nos yeux sont des fenêtres. C'est un accès direct vers notre cœur. Donc, ce qu'on regarde va avoir un impact sur ce cœur. Et si ce qu'on regarde n'est pas en accord avec les valeurs de l'islam, quand je dis que ce n'est pas en accord avec les valeurs de l'islam, c'est le fait de trop s'intéresser à ce qui ne nous regarde pas. Ça ne va pas être en accord avec ce qu'on espère atteindre religieusement. Le but, c'est de se questionner et se dire, le but, c'est qu'on aille vers le meilleur. Et si on entre en contradiction avec les valeurs de l'islam et qu'on le fait aussi naturellement, c'est à nous-mêmes qu'on va causer du tort parce qu'on s'habitue à quelque chose qui, de base, n'est pas sain. Et évidemment, la société n'aide pas parce que tout est fait pour qu'on s'intéresse à la vie des autres. Tout sera fait pour qu'on garde cette habitude, mais c'est à nous de savoir se gérer. Surtout que, d'ailleurs, on n'a pas parlé d'une porte gigantesque qui s'ouvre quand on s'intéresse à la vie des gens qu'on ne connaît pas. C'est qu'en plus de ça, on va dévier vers de la médisance très facilement. Parce qu'on va commencer à parler de choses donc, qui sont futiles, mais en plus de ça, on va peut-être partir dans de la supposition et de la médisance, dans la calomnie. Ça peut vraiment toucher à des péchés qui sont gravissimes. Et encore une fois, des péchés qui sont parfois banalisés et trop répandus, parce qu'on n'a pas conscience toujours de la gravité. Quand on nous parle du châtiment, on connaît le châtiment la plupart. Pourtant, on voit énormément de gens... pratiquer la médisance est assez ouvertement encore à l'heure actuelle.
Ce que j'étais en train de me dire, c'est que souvent, dans ce type de contenu, on a principalement des polémiques. Les polémiques supposent qu'on discute des polémiques et qu'on les commente. Et ouais. Souvent, c'est au-delà du fait qu'on va les commenter avec parfois des gens autour de nous, en mode « Ah, t'as pas vu ce qui s'est passé, etc. » En plus, ça va aller après sur le terrain de « on va commenter, on va mettre des commentaires » et on finit encore une fois avec le commentaire que j'ai vu, je ne sais plus quand, d'une fille qui justement disait « mais moi, à la base, quand… » Enfin, elle parlait d'une sœur en disant bah, « cette fille, pour moi, c'était… elle représentait les femmes musulmanes justement avec leur douceur, leur, comment dire, leur intelligence, etc. » Et en fait, les commentaires que je lis, c'est principalement des femmes musulmanes parce que le sujet, bref, était autour de ça. Et j'ai l'impression d'avoir que des personnes qui sont malveillantes, qui sont... Donc, c'était une non-musulmane hein, qui parlait de ça. Et moi, ça m'a fait trop mal au cœur parce que je me suis dit, mais quelle image on donne ? Donc, en fait, non seulement tu te portes préjudice à toi parce que tu vas aller commenter des choses avec un tel ou un tel ou un tel que tu n'as même pas vraiment à commenter, mais en plus, tu vas porter préjudice à la communauté parce que tu fais des polémiques sous des publications. Et le temps que tu es en train de prendre en faisant ça, c'est un temps que tu ne prendras pas pour faire autre chose. Et de plus profitable. Donc en fait, le temps qu'on prend pour des polémiques, on ne peut jamais le justifier parce qu'on a toujours mieux à faire au final.
Ouais, c'est clair. On oublie presque que nos œuvres, elles sont notées. Et c'est pas parce qu'on écrit et qu'on parle pas que c'est pas consigné. Et au contraire, subhanallah, on est observé constamment. Et pourtant, on est tous concernés par ça. On commet des péchés en sachant sciemment que Allah il nous voit. En le sachant, peut-être en l'oubliant, mais on commet des péchés, des fois, mais gravissimes. Et même si nous, on ne mesure pas l'impact, bah Allah, il nous parle de la gravité des péchés ou même du châtiment du péché. Et ça devrait nous suffire. Et encore une fois, ça va dans la même rhétorique que « non, mais je ne peux pas tout le temps me consacrer aux adorations. » Ouais, mais si on n'arrive même pas à conscientiser certaines choses qu'Allah il nous a dit, c'est qu'on n'y passe pas tant de temps que ça. Et je pense que de toute façon, les gens qui sont ancrés dans une certaine routine religieuse sont les derniers à dire ça. Tu les entendras jamais dire ça. Parce qu'au contraire, ils te disent que plus ils apprennent et moins ils ont le temps de se consacrer à des choses qui leur font perdre du temps. c'est des gens qui parfois même n'ont même plus le temps d'allumer la télé dans certaines périodes parce que ils ont du travail. Ce qui montre que c'est possible. Et nous, on a du mal avec ça parce que quand on est habitué avec le divertissement, c'est dur de passer d'un extrême à un autre. Mais qui nous a demandé d'aller dans un extrême à un autre ? Personne. En vrai, c'est pour ça que le but, c'est surtout de déjà d'y aller progressivement et de se donner peut-être des objectifs juste réalisables et atteignables pour Ramadan, de se dire non, bon, là, je dois arrêter de suivre telle personne parce qu'elle ne m'apporte rien à ma foi et elle ne m'apporte rien en bien-être. Genre, ce n'est pas un docteur, ce n'est pas quelqu'un qui me sensibilise à peut-être certaines pathologies psychologiques. Enfin, y a beaucoup de cas. Il y a des gens qui ont vraiment une plus-value. Mais la plupart des gens suivis, et en tout cas les personnes qui font les plus gros scores sur les réseaux, nous montrent que ce n'est pas les gens qui sont le plus suivis, ceux qui ont une plus-value sur les réseaux sociaux.
Vraiment, quand tu réfléchis aux personnes de science, là, ça te met une claque. Tu te dis, mais moi, à côté, mais on se cherche des excuses alors que même si on n'a pas... on a tous 24 heures dans une journée, tu vois. Donc, mais en fait, vraiment, il y a des personnes qui sont dans la même situation que nous et qui font un milliard de fois plus. Donc, c'est vraiment aussi une question à un moment donné de qu'est-ce que je veux faire de mes journées et qu'est-ce que je choisis de ne plus faire. Comme tu dis, le but, c'est pas d'être là et de ne jamais avoir aucun divertissement, etc. Parce qu'on veut être dans la modération. Mais c'est vrai que quand tu... Faut essayer de s'inspirer, et ça, je le dis tout le temps, il faut qu'on s'inspire des gens qui sont au-dessus de nous, en fait. Des gens qui... Ouais. Machallah, tu vois leur comportement, tu te dis, mais ces personnes, elles sont passionnées par l'apprentissage, par exemple, elles sont passionnées par... et ça veut pas dire que nous, on est obligé de devenir comme ça, etc. Mais ça veut dire qu'il faut s'en inspirer. Et malheureusement, ce qui est mis en avant, notamment sur les réseaux, c'est le culte de la médiocrité, en fait. Mais la médiocrité totale dans les sujets abordés, dans le style de vie qui est mis en avant, etc., ça va à l'encontre de ce à quoi on est censé aspirer. Et donc, je pense que quand tu comprends que... En fait, il faut se dire, c'est simple, qu'est-ce que je veux être ? Qu'est-ce que je ne veux pas être ? Est-ce que je veux ressembler à ce genre de personne ? C'est des questions qui ne sont pas difficiles. Hein. Est-ce que je veux ? Et si je me dis, j'ai l'impression que je ressemble à ça et que je ne peux pas mériter mieux, est-ce qu'on peut se dire... Je fais table rase de qui je suis là ou qui j'ai été et en fait qui je veux être. À partir du moment où on définit qui on veut être, il faut se donner les moyens ensuite et délaisser les choses qui nous tirent vers le bas. Et ma prof de Coran, qu'Allah la récompense, elle nous disait encore hier, mais en fait, vous verrez que plus vous allez rechercher l'excellence, même dans le fait, moi j'en suis très loin, mais justement ça m'a beaucoup inspiré son rappel, elle disait, vous allez commencer par exemple à vous détacher de certaines choses, mais naturellement, en fait, vous allez refuser certaines invitations parce que vous allez devoir vous consacrer à d'autres choses, etc. Mais en fait, petit à petit, c'est pas du jour au lendemain, évidemment, il faut habituer aussi son âme. C'est comme, pour moi, c'est un peu comme une discipline sportive, en fait. Genre, il faut petit à petit que délaisser certaines choses, on s'habitue en prenant sur soi et en étant constant, même si c'est un petit peu, on se dit, là, je vais délaisser ça et je vais être constante là-dedans. Et au contraire, je vais essayer de remplacer par meilleur, en fait. On peut avoir été intoxiqué pendant longtemps par des mauvaises choses, avoir été dans des péchés, etc. Mais en fait, si on se dit, moi, je sais qui je veux être, il s'agit juste ensuite de poser les marches qu'on va gravir petit à petit et se dire, j'aimerais me détourner au maximum de ce qui est médiocre et me rapprocher de l'excellence. Comment je vais faire ? Je vais commencer par faire le tri. Et là, bizarrement, alhamdoulilah, je vais avoir du temps qui va être dégagé, tu vois.
Les œuvres les plus aimées d'Allah sont les plus constantes, même si elles sont peu nombreuses. Donc le but, ce n'est pas d'aller vers la quantité forcément. Et il faut aussi juste essayer d'apporter de la plus-value d'abord dans sa vie. Mmh. Et commencer par les petites choses. Si je ne suis pas encore assidue dans mes prières, déjà, je vais me concentrer sur le fait d'être assidue à mes prières. Parce que peut-être que le fait de mettre plus de cœur à l'ouvrage dans mes prières et d'avoir plus de khushur, donc d'avoir de l'humilité dans ma prière, peut-être qu'avec ça, je vais être facilitée dans d'autres domaines pour justement avoir un comportement plus noble et plus adéquat. Et on ne sait pas en fait ce que l'œuvre a comme impact sur nous. Mais au moins, il faut essayer et se questionner sur ce qu'on fait aujourd'hui. Et toujours, de toute façon, être dans une position où nous, on regarde ce qu'on fait et on essaye de questionner notre âme avant qu'elle soit questionnée. C'est une phrase connue, je ne l'ai pas inventée. Il faut questionner son âme avant qu'elle le soit. Parce qu'on va arriver devant Allah et qu'on va répondre de chaque acte. Mais avant ça, on peut déjà nous se préparer en se demandant qu'est-ce que j'ai fait de mon temps libre ? Qu'est-ce que j'ai fait pour adorer Allah comme il se doit ? Qu'est-ce que j'ai délaissé pour Allah ? Délaisser un peu de contenu inutile pour Allah, je pense que c'est... Si on en espère la récompense d'Allah, on pourra être que facilité dans le bien.
Inch'Allah. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que ça s'est plutôt bien enchaîné, là, nos idées. Tu veux finir comment, là ?
normalement, là, on a donné quelques pistes de réflexion et des actions concrètes qu'on peut tous mettre en place. Maintenant, bah, on peut se préparer au mieux pour Ramadan et essayer de se questionner sur nos petits actes du quotidien, comme les grands, mais en gros, de se questionner un peu sur comment on agit. Et voilà, en reprenant tous les petits conseils, entre guillemets, qu'on a donnés, bah, on peut vraiment se dire, là, je vais essayer de redéfinir ma notion de consommation sur les réseaux sociaux, si je peux dire ça comme ça. Et on peut se dire qu'on part sur cette base-là pour Ramadan et pour après. Et vraiment, le hadith, pour moi, c'est un hadith qui doit être vraiment retenu et réfléchi. C'est un des hadiths qui m'a le plus marqué quand je l'ai vu pendant un séminaire, parce que justement, il nous parle trop. Il est trop parlant pour nous. Merci d'avoir écouté l'épisode. J'espère qu'il vous sera utile et qu'il a eu l'impact qu'on espérait qu'il ait en même lieu, Inch'Allah, qu'Allah nous permette d'atteindre le mois de Ramadan, qui n'est pas encore là pour le moment, et qu'Allah nous permette de répondre à chaque caractéristique des croyants que Allah il énonce dans Sourate Al-Mu'minoun, que je vous laisse aller lire ou découvrir ou redécouvrir pour ceux qui la connaissent déjà. Il y a plein de sagesse dedans et ça ne s'arrête pas que aux trois versets que j'ai cités. Barakallahu fiki, Océane, pour les pistes de réflexion que tu as apportées et pour l'échange qu'on a pu avoir.
Fiki, barakallahu fiki à toi. Merci pour ce petit échange fort intéressant et j'espère, Inch'Allah, que ça pourrait être profitable, ne serait-ce qu'à une personne. C'est cool.
Ouais, Inch'Allah. N'hésitez pas à nous faire un retour, évidemment. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
Alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh.